Les informations présentées par Oana Favennec. Bonsoir Oana.
Bonsoir Antoine Janton, bonsoir à tous. Le CETA a été ratifié par les députés français, mais le vote solennel a été serré. De nombreux députés LREM se sont abstenus. Quelques heures auparavant, Greta Thunberg, une jeune fille préoccupée, était venue parler à l'Assemblée, préoccupée par une urgence, le climat. Boris Johnson deviendra demain le nouveau Prime Minister. L'ancien maire de Londres a été choisi par les adhérents de son parti pour prendre les rênes du pays. Dans le reste de l'actualité, la mort du boucher de Tiananmen, l'ancien Premier ministre chinois Li Peng est décédé ce mardi à l'âge de 90 ans. Cette fois, ça y est, le CETA, le traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada, est ratifié par l'Assemblée nationale grâce aux voix de 266 élus. 213 députés ont voté contre, 74 se sont abstenus. Un résultat plutôt serré. Stéphane Robert, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Les députés et La République En Marche n'ont donc pas tous été convaincus par ce texte.
Non, le CETA a été ratifié avec 53 voix d'avance, 266 pour, 213 contre, et puis... on a compté 73 abstentions, notait tout à l'heure le député Les Républicains du Pas-de-Calais, Daniel Fasquelle.
Ça passe, mais de peu. Hein. Le coup passe à si près que le chapeau tomba.
Pour le député de Seine-et-Marne et patron du Parti Socialiste Olivier Faure, le résultat du vote signifie qu'un malaise s'est exprimé au sein de la majorité.
C'est plus serré que prévu, effectivement, ce qui veut dire qu'il y a une part de la majorité qui est aujourd'hui très troublée et qui, en réalité, a de plus en plus de mal à assumer ce « en même temps ». Le matin, avec Greta Thunberg, l'après-midi, à voter le CETA. En même temps, écoutez ce que je dis, et en même temps, ne regardez pas ce que je fais. C'est ça, la réalité d'En Marche, aujourd'hui. Et donc, c'est toute la difficulté pour eux.
Pour avoir une idée plus précise de ce qui s'est passé, faisons les comptes. Pour la majorité, certains députés ont voté contre, 9 à La République En Marche, 2 au Modem. Et surtout, ils sont 58 à s'être abstenus, 6 au Modem, 52 chez les marcheurs, notamment la députée du Bas-Rhin, Martine Vonner, afin de marquer son désaccord, sans toutefois franchir le Rubicon.
Je m'abstiens, ce qui est un vote fort quand on fait partie d'une majorité. Ce sont des alertes très fortes, mais qui permettent aussi de ne pas ni brusquer, ni de brutaliser, mais de faire passer des messages.
Au bout du compte, la logique politique a été respectée. Le CETA a été ratifié, mais on a effleuré là les limites du en même temps macronien. Et il faut croire qu'à la question, est-il possible de concilier croissance économique et lutte contre le réchauffement climatique ? Certains n'ont plus tout à fait la réponse.
Stéphane Robert. Elle est venue, elle a parlé, a-t-elle convaincu ? Greta Thunberg, égérie mondiale de la lutte contre le réchauffement climatique, était invitée ce midi à l'Assemblée à s'exprimer sur le climat face aux députés, en tout cas ceux qui ont fait le déplacement. Véronique Rebérotte, vous étiez dans cette salle au sous-sol du Palais Bourbon. La jeune Suédoise de 16 ans avait un message à faire passer, celui du GIEC, le groupe d'experts pour le climat.
Oui, c'est même son seul message, relayer la parole scientifique. Même si c'est une vérité qui dérange Greta Thunberg. C'est presque comme si vous n'aviez pas lu le dernier rapport du GIEC dont dépend l'avenir de notre civilisation. Ou peut-être simplement n'êtes-vous pas assez mature pour dire les choses telles qu'elles sont. Même ce fardeau, vous nous le laissez à nous, les enfants. Nous sommes les méchants qui disons aux gens des choses pas faciles parce que personne n'ose le faire. Et pour le simple fait de citer des faits scientifiques, nous recevons un déferlement de haine et de menaces inimaginables. Des députés, des businessmen, des journalistes se moquent de nous.
Evie est l'une des quatre jeunes à avoir pris aussi la parole, elle aussi aux côtés de Greta Thunberg. Evie qui préférerait avoir d'autres préoccupations que l'avenir de la planète.
Nous passons plus de temps à parler du dérèglement climatique que de ce qui nous passionne vraiment. Nous les jeunes, nous ne devrions pas nous soucier de ça. En revanche, ces derniers temps, on a bien compris que nous ne sommes pas obligés de laisser les multinationales dicter nos modes de vie. Pas obligés de faire venir de l'autre bout du monde des marchandises dont nous n'avons pas réellement besoin. Nous ne sommes pas obligés de passer le bien-être du commerce au-dessus du bien-être de la planète.
Éric Diard, député Les Républicains, prend à son tour la parole pour expliquer qu'il a bien fait de venir quand certains députés ont préféré le boycott.
Moi, je tenais à vous dire que je n'ai pas assisté à une messe. Je n'ai pas vu le prix Nobel de la peur. J'ai vu simplement une jeune plutôt réservée qui était de son temps et qui disait sa crainte sur son avenir et qui nous a simplement dit « Ne m'écoutez pas, mais écoutez les scientifiques, c'est tout. » J'ai un enfant de cet âge, on gagne toujours à entendre la jeunesse, on en retire toujours quelque chose et je vous dis donc un grand merci.
Voilà, cet après-midi, donc, Greta Thunberg aura, en ce jour de grande canicule, en plus, été présente au moment de la ratification par la France du CETA. Vous l'avez entendu, climat ou CETA, les députés français ont choisi.
Véronique Rebérotte. Restons au Palais Bourbon avec les résultats de l'enquête visant les dîners fastueux de François de Rugy lorsqu'il était président de la Chambre basse. Aucune irrégularité, conclut le secrétaire général de l'Assemblée nationale, qui épingle toutefois 3 dîners amicaux ou familiaux. François de Rugy pourra les rembourser et il le fera, promet son entourage. Ce matin, un premier rapport avait dédouané François de Rugy sur un autre volet des révélations de Mediapart. Les travaux dans son appartement de fonction lorsqu'il était ministre de l'écologie. Le secrétariat général du gouvernement a globalement validé les 64 000 euros, même si l'urgence dans laquelle les commandes ont été passées, notamment le dressing à 17 000 euros, a fait tiquer. L'opposition met en cause l'impartialité de ces enquêtes menées donc par le gouvernement et le Parlement. Mais au-delà, Jean-Christophe Picard, le président de l'association de lutte contre la corruption Anticor, pointe un problème, le manque de règles qui encadrent les dépenses.
Je pense que quel que soit celui qui fait l'enquête, à partir du moment où il n'y a pas vraiment de critères de référence, je ne vois pas quelle conclusion il pourrait tirer. Pour qu'on viole une règle, que ce soit une règle pénale ou une règle déontologique, il faut qu'il y ait une règle. Il n'y a rien aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut, c'est justement qu'on encadre un peu les choses. C'est quand même pas la première fois qu'il y a des interrogations. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on a quand même, par exemple, à l'Assemblée nationale, il y a 3 questeurs, une commission spéciale composée de 15 parlementaires, on a une déontologue, et je comprends pas pourquoi on n'arrive pas à encadrer des dépenses qui sont quand même faciles à encadrer. Ça fait presque peur. Et je suis un peu étonné, et pas seulement pointer du doigt M. de Rugy, il faut pointer du doigt toutes les personnes qui exercent une responsabilité à l'Assemblée nationale et qui, me semble-t-il, ne font pas leur travail. Qu'est-ce que font les questeurs? Qu'est-ce que font les parlementaires de la commission spéciale? Qu'est-ce que fait la déontologue? Voilà, il faudrait quand même leur demander des comptes. Ils sont là pour ça, ils ont une rémunération pour ça, pour contrôler, pour éviter les abus. Et je suis un peu étonné que finalement, à chaque fois, on découvre que personne ne contrôle rien.
Jean-Christophe Picard, le président de l'association de lutte contre la corruption Anticor, interrogé par Rosalie Lafarge. En parallèle des conclusions de son enquête, Matignon a envoyé une nouvelle circulaire de bonne conduite à tous les ministres et secrétaires d'État. Le gouvernement y appelle chacun à respecter des principes déontologiques d'exemplarité et de sobriété dans le cadre de travaux menés dans des appartements de fonction. Tous les travaux à plus de 20 000 euros seront désormais soumis à l'approbation du secrétariat général du gouvernement. La quasi-totalité de la France est en vigilance orange canicule. 80 départements français, tous sauf les 3 départements de la pointe bretonne, ceux du pourtour de la Méditerranée et les 2 départements corses. La canicule, justement, est-elle compatible avec l'énergie nucléaire? 2 réacteurs de la centrale de Golfech dans le Tarn-et-Garonne sont arrêtés, l'un ce soir, l'autre demain, et ce jusqu'au 30 juillet pour éviter la surchauffe. Mais le secteur de l'énergie ne panique pas, il n'y aura pas de coupure d'électricité selon Nicolas Goldberg. Il est consultant sur les questions d'énergie dans un cabinet de conseil Columbus Consulting.
En période de sécheresse et canicule, globalement, on a quelques réacteurs nucléaires, donc ceux qui sont en bord de fleuve, sur les fleuves où il y a peu de débit, qui doivent baisser leur charge, mais ça concerne que quelques réacteurs. Les réacteurs en bord de mer, par exemple, ne sont absolument pas concernés. Globalement, en période estivale, on est dans un creux de consommation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la consommation, on est autour de 55 gigawatts, alors que dans les périodes de froid d'hiver, on est quasiment au double. Il faut bien voir qu'on n'a que 2 réacteurs sur 58 qui sont arrêtés pour cause de canicule. Ça a peu d'impact. On a encore énormément de marge sur vos réseaux, donc il n'y a pas spécialement des choses à craindre. Après, si on se projette loin dans l'avenir, on se dit qu'il y aura de plus en plus de canicules et potentiellement de plus en plus de bâtiments climatisés. Il y a quand même lieu d'essayer de se projeter à très long terme pour se dire qu'il faut mieux isoler les bâtiments contre le chaud pour éviter ces pics de consommation à des moments où on a des turbulences sur certains moyens de production.
Des propos recueillis par Diane Berger pour France Culture. Boris Johnson ira s'agenouiller devant la reine Elizabeth demain, mais l'ancien maire de Londres a d'ores et déjà été adoubé par son parti, les Tories. Il a été élu à 66% des voix par les militants et prend les rênes du parti conservateur. Le cauchemar des pro-européens a donc été élu à la tête du gouvernement britannique, Antoine Gignot.
Quelques secondes après l'annonce du résultat, il est déjà sur scène, Boris Johnson, avec un gigantesque sourire sous ses mèches blondes. L'essentiel, dit-il, c'est maintenant de réconcilier les pros et les anti-Brexit. Nous savons que nous en sommes capables. Les gens de ce pays nous font confiance pour le faire. Nous savons que nous le ferons. Rappelez-vous le slogan de cette campagne qui vient de se terminer, mettre en œuvre le Brexit, réunifier le pays et battre Jeremy Corbyn. Et ce n'est pas un hasard s'il cite le nom du chef de file des travaillistes. Boris Johnson a été élu avec 66% des voix, ça veut dire qu'un peu moins de 100 000 adhérents conservateurs ont voté pour lui. C'est suffisant pour lui ouvrir les portes du 10 Downing Street, mais ça ne suffit pas à lui donner la légitimité d'un chef d'État. Pour durer, il va devoir se battre. Il se présente donc comme le dernier rempart contre la gauche, tout en promettant de mettre fin à la politique d'austérité.
Antoine Gignot à Londres. Les premiers mots de Boris Johnson auront donc été pour en promettre un Brexit le 31 octobre. Côté européen, les réactions ne se sont pas fait attendre. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, veut travailler de la meilleure façon possible avec le nouveau Premier ministre. Le président français, Emmanuel Macron, s'est dit très désireux de pouvoir travailler au plus vite avec lui. En visite à Paris, la prochaine présidente de la Commission européenne, l'Allemande Ursula von der Leyen, qui prend ses fonctions le 1er novembre, a toutefois insisté sur les défis à venir et mis en garde contre des temps difficiles. Angela Merkel, la chancelière allemande, a, elle, insisté sur le fait qu'elle voulait poursuivre l'amitié étroite avec la Grande-Bretagne. En Espagne, Pedro Sanchez n'a toujours pas convaincu Podemos et le revers a été sévère au Parlement. Le socialiste victorieux aux élections législatives il y a 3 mois n'a pas décroché l'investiture aujourd'hui. Seul le Parti socialiste a voté la confiance. Un nouveau vote à la majorité simple est prévu jeudi. Et pour l'emporter, Pedro Sanchez doit parvenir à un accord avec la gauche radicale de Podemos. La partie s'annonce compliquée, Mathieu de Taillac.
Les élections générales ont eu lieu il y a près de 3 mois, mais ce n'est que la semaine dernière que le Parti socialiste, le PSOE de Pedro Sanchez et Podemos de gauche radicale se sont mis à négocier sérieusement un gouvernement de coalition. Jusque-là, Sanchez faisait voir que plusieurs alliances pouvaient l'intéresser, notamment avec Ciudadanos de centre-droit, qui est pourtant très clairement dans l'opposition. C'est peu de dire que Podemos s'est agacé de l'attitude cavalière d'un candidat socialiste qui n'a pas d'alternative à l'alliance à gauche, soutenue par la probable abstention de partis régionalistes ou indépendantistes basques et catalans. Seulement, Sanchez s'est présenté devant les députés sans avoir conclu les négociations avec Podemos, et les deux partis ont donné l'impression de poursuivre les tractations au Parlement devant 350 députés et des millions de téléspectateurs. Sans ménagement, chacun a accusé l'autre de ne pas avoir assez cédé. Pablo Iglesias pour Podemos accuse les socialistes de leur réserver un rôle décoratif dans un gouvernement de coalition. Sanchez, pour sa part, a mis au défi la gauche radicale de voter contre lui aux côtés de l'extrême droite, rappelant qu'en cas d'échec, de nouvelles élections seraient convoquées. Les deux partis ont un peu moins de 48 heures pour parvenir à un accord avant le second vote prévu jeudi à 13h30.
Mathieu de Taillac à Madrid pour France Culture. Les étudiants demandaient la démocratie, il a fait rouler les chars. Li Peng, l'ancien premier ministre chinois, est mort. C'est un de ceux qui étaient aux manettes de la répression en juin 1989. Place Tiananmen à Pékin. Le bilan officiel fait état de 300 morts, il y en aurait plus d'un millier. La correspondance à Shanghai d'Angélique Forger.
Pour la presse officielle chinoise, Li Peng est un guerrier communiste loyal et un dirigeant remarquable du parti et de l'État. Pour les étudiants de la place Tiananmen, il est l'un des premiers responsables du massacre survenu il y a 30 ans et qui a fait des milliers de morts. Le soir du 19 mai 1989, c'est lui qui, après avoir accepté un débat animé avec des étudiants, annonce l'instauration de la loi martiale. Premier ministre de 1987 à 1998, ces dernières années, il n'est apparu que rarement en public, mais en 2010, son nom fait un retour sur le devant de la scène lorsque ses supposées mémoires fuitent sur Internet. Il y justifie notamment la répression du 4 juin. En plus de ce bain de sang, Li Peng laisse derrière lui une controverse, la construction du barrage des Trois Gorges, le plus grand du monde, un projet qu'il a toujours défendu et qui a nécessité le déplacement de plus d'1,5 million de personnes et qui présente des risques environnementaux.
Angélique Forger à Shanghai pour France Culture. Au Portugal, les feux de forêt sont désormais maîtrisés au centre du pays, dans la région de Castelo Branco, après environ 70 heures de lutte. 8500 hectares de forêt ont été dévorés par les flammes, plusieurs villages évacués, 41 personnes ont été blessées. Un coup d'œil sur le temps de demain, caniculaire et instable selon Météo France, avec des averses résiduelles sur l'ouest du pays qui se raréfieront au fil de l'après-midi. Des averses également sur les massifs à l'est, avec des orages attendus sur les Alpes, les Pyrénées et le massif central. 5 départements sont placés en vigilance orange pour risque d'orages violents. Les températures seront supérieures à 30 degrés partout, sauf sur les rivages de la Manche. C'est la fin de cette édition réalisée avec Jean-François Braun. Prochain journal de la rédaction à 22h, il sera présenté par Ezekiel Fernandez.